Alors, est-ce que vous m'entendez suffisamment? Tout va bien? Bon. Eh bien, le temps qu'on puisse commencer à enregistrer.
Tu le dis?
On enregistre déjà. Okay. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons parcourir ensemble la lettre de Paul aux Philippiens. Nous resterons dans le chapitre 1 et nous allons voir ensemble les versets 3 à 11. Alors, je n'ai pas préparé de projection, j'ai oublié en fait de le faire, vu que je n'ai plus l'habitude, mais sinon, si vous n'avez pas votre Bible, je vous invite à ouvrir vos oreilles. Et pour introduire un peu cette prédication, j'aimerais relire le passage que tu nous as lu, Adrien, et particulièrement les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et c'est un thème très important et un verset très important qui synthétise beaucoup de choses qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et je pense particulièrement à l'affliction produit la persévérance. Je ne sais pas comment vous vivez cette transition, passer de l'affliction à la persévérance. C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui prend du temps. Et si je le relis avec vous ce matin, c'est parce que j'aimerais pouvoir le développer un petit peu aussi dans ce que j'aimerais vous dire par rapport à cette lettre de Paul aux Philippiens. Je ne sais pas si vous saviez, mais la ville de Philippe, où se trouvaient les Philippiens, c'est la première ville de l'Europe à être touchée par l'Évangile. Les premiers chrétiens européens, ils étaient à Philippe. Ce qui n'est pas rien pour nous, et Paul va écrire cette lettre à cette église de Philippe 10 ans après qu'il l'ait implantée. Paul a donc été dans cette ville, il a annoncé l'Évangile, des personnes ont cru dans le nom du Seigneur Jésus, se sont converties, Paul les a formées, et puis il est parti. Il est parti, mais il a gardé un lien avec cette église, un lien très fort, que nous découvrons dans cette lettre de Paul aux Philippiens. Malgré le temps qui a passé, 10 ans ce n'est pas rien, il y a une grande affection entre Paul et cette église. Et cette affection, elle se caractérise notamment par le ton très positif de toute la lettre. On aurait presque ici, en fait, dans cette lettre de Paul aux Philippiens, une lettre de nouvelle, un peu comme nous, on peut en recevoir aussi à l'église lorsqu'on est en lien avec des missionnaires qui nous envoient des lettres de nouvelles. Une lettre de nouvelles reçue par un collaborateur proche qui a été envoyé par l'église. On pourrait presque dire ça en lisant cette lettre. Et je trouve aussi intéressant de souligner que cette lettre, c'est la seule où Paul ne va pas faire de reproches directs contre l'Église, ce qui est assez important à souligner. Un ton très positif et un thème qui va être développé par Paul, entre autres, un thème important, le thème de la joie. C'est aussi pour ça que je voulais parler d'affliction et de persévérance juste avant. Nous allons voir ici la joie qui s'attache au ministère de Paul et par rapport aussi à cette église de Philippe. Nous allons lire ensemble notre texte, donc nous sommes dans la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 1, et nous allons lire ensemble les versets 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. beaucoup de joie qui ressort de ce texte et de cette lettre de façon générale de Paul aux Philippiens, une joie que Paul peut trouver dans ses frères et sœurs en Christ. Et c'est un peu ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin de tout ce que je veux dire. La vraie joie peut se trouver dans les frères et sœurs en Christ. Paul a eu l'occasion de le vivre parce que lorsqu'il écrit cette lettre, on ne le voit pas ici parce qu'il garde un ton très positif, mais Paul est en prison. Paul est en captivité et il rédige cette lettre à Philippe, à l'église de Philippe. Et pour nous, c'est aussi salutaire et intéressant de se pencher, lorsque nous avons vécu ces temps de confinement, qui étaient des temps aussi difficiles pour nous, nous avions nos habitudes de nous retrouver, de nous soutenir les uns les autres, en nous voyant, en pouvant discuter ensemble, et nous en avons été privés, presque du jour au lendemain. Je m'en rappelle, les autorités nous ont prévenus le samedi dans l'après-midi qu'on devait couper les cultes et ne pas faire nos cultes le lendemain. La chose est tombée soudainement. On n'y était pas vraiment préparé, on se doutait qu'il y avait quelque chose, mais c'est tombé comme ça, et on a dû arrêter. Et pourtant, nous avons eu la chance de pouvoir mettre des choses en place pour continuer à vivre l'Église, mais je pense qu'on est tous d'accord de dire que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas aussi bien, et ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail, qui est invisible, qu'on ne voit pas forcément, des aménagements pour finalement quelque chose qui était moins bien que ce qu'on avait avant. Alors le Seigneur nous a donné la force, la joie aussi de pouvoir vivre ces moments comme on a pu, et je pense aussi que nous pouvons trouver là un parallèle avec Paul pour son histoire où lui était en prison aussi, séparé des frères et sœurs, coupé aussi dans son élan missionnaire. Il avait à cœur d'annoncer l'Évangile, le Seigneur lui donnait des victoires, des conversions qu'il pouvait voir, et lorsqu'il écrit cette lettre, il est en prison. Il est coupé, il n'a plus rien, et pourtant, malgré tout, il transpire de joie. Il se réjouit, malgré tout, de tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qu'il peut vivre, et tout ce qu'il vivra avec ses frères et sœurs en Christ. Et je trouve pour nous aussi, c'est important de pouvoir prendre exemple sur Paul pour nous soutenir les uns les autres et trouver notre joie aussi les uns dans les autres. J'aimerais développer cette pensée sous trois aspects. La joie qui est celle de Paul, elle se décline premièrement par rapport à tout le passé qu'il a pu vivre avec l'église de Philippe. C'est ce qui va correspondre dans notre passage au verset 3 à 5. Tout ce qu'il a vécu dans le passé avec les croyants de Philippe lui donne de la joie. En deuxième, nous allons voir aussi que tout ce que l'église vit dans le présent donne aussi de la joie à Paul. Et cela correspondra à nos versets 6 à 8. Et enfin, pour les versets 9 à 11, la fin de notre passage, pour l'avenir, Paul aussi a sujet de se réjouir au sujet de cette église des Philippiens. La vraie joie peut se trouver dans les frères et sœurs en Christ. Je vais commencer déjà par relire la première partie de notre passage, les versets 3 à 5, et nous nous attarderons un petit peu dessus. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul pense au passé, seul, dans sa prison. Il se souvient de tout ce qu'il a vécu, notamment avec cette église des Philippiens. Nous savons, de par le livre des Actes, au chapitre 28 et au verset 16, que Paul, dans son emprisonnement, n'était pas dans une prison comme on pourrait le concevoir aujourd'hui, mais qu'il était assigné à résidence. Il était donc dans une maison, et il n'avait pas le droit d'en sortir. Et nous savons aussi qu'il était enchaîné à un soldat dans cette résidence. Donc, privé de sa liberté de pouvoir annoncer l'Évangile, mais malgré tout, pas dans une cellule miteuse, comme on pourrait peut-être le penser dans un premier temps. Et dans ces circonstances défavorables, Paul a le loisir de se réjouir. Il se réjouit parce qu'il sait que même si lui est stoppé dans son élan, même si lui ne peut pas accomplir le ministère pour lequel il a été appelé, eh bien les Philippiens, eux, prennent aussi part à l'Évangile, à cette grâce que Dieu a faite à Paul, de pouvoir annoncer le salut de Dieu. Les difficultés, en fait, que Paul vit ne vont pas produire chez lui de l'amertume, mais produire de la joie. Un peu comme on l'a vu dans le Romains 5 que tu nous as lu, l'épreuve ou l'affliction qui produit de la persévérance. Paul l'a vécu dans ce texte, dans son ministère, de pouvoir réaliser aussi que même si les circonstances sont difficiles, il y a des sujets de se réjouir. Et un proverbe met aussi en lumière ce principe, le proverbe chapitre 15, verset 15, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Ce qui est aussi une autre façon de formuler le fait que même dans les circonstances difficiles, dans l'affliction, nous avons toujours des sujets de nous réjouir, de réaliser que même si nous souffrons, Dieu est aux commandes. C'est lui qui décide, c'est lui qui a permis que le culte s'arrête, que nous soyons obligés de rester chez nous pour ces temps de confinement, que nous soyons aussi obligés de faire nos moments de culte par visioconférence. Tout cela n'échappe pas au regard de notre Dieu. Tout est dans sa main et nous pouvons lui faire confiance, comme aussi cela a été prié juste avant, qu'il veut le meilleur pour nous. Même si ce n'est pas forcément ce que nous aurions voulu, le Seigneur sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et soyons sûrs qu'il nous le donne. Soyons-en sûrs, mes amis. Paul, donc, se rappelle tout ce qu'il a vécu avec l'église de Philippe, et il se réjouit notamment de l'engagement de cette église. Son engagement pour l'annonce de l'évangile, ce qui donne des forces à Paul. Un engagement, si vous remarquez dans notre texte, qui dure, qui tient en fait dans la durée. La part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Déjà, nous savons que l'Église de Philippe avait à cœur de soutenir Paul. Et d'ailleurs, pendant les temps d'emprisonnement de Paul, l'Église de Philippe a envoyé l'un des leurs pour aller le soutenir à Rome, pour le réconforter et lui apporter quelques soutiens matériels et financiers. Ce qui, à cette époque, n'est pas rien, parce que Philippe, la ville de Philippe et Rome, ce n'est pas la porte à côté. Il y a un long voyage qui nous attend, qu'on ne fait pas en voiture ou en avion, mais qu'il faut faire à cheval, en chameau ou à pied. Et c'est là qu'on voit le lien qui unissait Paul à cette église. Ils ont eu à cœur d'envoyer quelqu'un faire ce voyage, qui est un voyage dangereux, avec du soutien, des vêtements, de l'argent. On voit la confiance qu'ils avaient en Dieu aussi, de garder cet émissaire pour être un soutien pour Paul. Le renoncement aussi qu'ils ont accepté de consentir pour que Paul aussi puisse être encouragé et réconforté. L'Église a toujours eu à cœur d'accompagner Paul, que ce soit par la prière, dans l'engagement moral à le soutenir, l'engagement financier aussi, et aussi dans la part qu'ils prennent à l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. C'est quelque chose qui faisait partie de l'ADN de cette Église, de prendre part à cette annonce de l'Évangile, annoncer le salut en Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cela aussi pour Paul, c'est un encouragement, parce qu'il sait que ce qu'il a fait dans cette ville, dans cette Église, n'a pas été vain, et que même si lui, il est parti, je vous rappelle que 10 ans ont passé, entre la rédaction de la lettre et le fait que Paul a implanté cette église, 10 ans ont passé, et encore aujourd'hui, l'église poursuit cet élan que Paul leur a donné d'annoncer l'évangile. Cela montre à Paul, en fait, que même si son ministère doit s'arrêter, même si lui doit peut-être perdre la vie, ce qui devra arriver à un moment ou à un autre, eh bien le plan de Dieu peut continuer au travers d'autres mains que les siennes. Et ça est un encouragement aussi pour nous de réaliser l'importance de miser sur des choses qui durent, et pas juste sur nos propres forces, ou bien tourner vers nous-mêmes, mais tourner vers les autres. Investir dans des personnes qui vont porter du fruit, et du fruit qui va demeurer. Un engagement qui ne sera probablement pas directement pour nous, mais pour le royaume de Dieu, de façon plus générale. Et même si cela peut être une souffrance pour nous, comme aussi pour Paul, c'est une souffrance de ne pas pouvoir annoncer lui-même l'Évangile, eh bien c'est un sujet de joie, de savoir que tout ne dépend pas de nous. Tout n'est pas entre nos mains. Et si nous sommes stoppés, eh bien Dieu ne l'est pas. Il peut utiliser aussi quelqu'un d'autre pour prolonger ce que nous avons pu faire pour lui. Cela nous enlève aussi un fardeau des épaules, de nous dire que si on ne fait pas les choses, eh bien tout va mourir et il n'y aura plus rien. Cela est aussi un réconfort de se dire, Dieu aussi peut pourvoir. Encore une fois, ce ne sera pas forcément de la façon dont nous aurions voulu, mais malgré tout, gardons courage, gardons cette persévérance de savoir que c'est le Seigneur qui rendra nos œuvres parfaites. Paul se réjouit donc de par la part que a cette église de Philippe dans l'annonce de l'évangile, depuis toujours, depuis le premier jour, jusqu'à maintenant. Et je vais reprendre la lecture de notre texte, au verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Dans les bons comme dans les mauvais jours, l'apôtre garde les mêmes sentiments pour cette église dont il est si proche. Il ne se laisse pas décourager, mais il est toujours réjoui de savoir que l'Église est aussi à ses côtés, que cette unité entre eux, elle demeure. Même s'ils sont éloignés, même si les seuls contacts qu'ils peuvent avoir, c'est par voie postale, et cela peut prendre des mois à l'époque, pour faire parvenir une lettre, malgré tout, il y a toujours un lien entre eux, même s'ils ne se voient pas, s'ils ne peuvent pas s'appeler, se téléphoner, même s'ils ne peuvent pas se retrouver en visioconférence, eh bien le lien est toujours là. Le lien de l'Esprit que Dieu a donné à son Église par son Esprit qui vient habiter en nous. C'est là le lien qui aide aussi Paul à tenir bon, de savoir qu'il n'est pas seul, de savoir qu'il a des frères et sœurs qui aussi vivent les mêmes souffrances que lui, qui ont part au même Évangile, qui connaissent le même Seigneur et qui auront la même finalité éternelle auprès de lui. Pour Paul, je trouve intéressant de voir dans notre texte, il parle des bons et des mauvais jours, les moments où il est dans les liens, donc lorsqu'il est en prison, et les moments où il est dans l'annonce et la confirmation, la défense, pardon, et la confirmation de l'Évangile. Et je trouve intéressant de voir le quotidien de Paul, qui est résumé ici dans ce verset. Soit Paul est dans la défense et la confirmation de l'Évangile, soit il est dans les liens. Et nous, quand on y réfléchit, quelle vie quand même pour Paul, d'un côté être dans les liens, être en prison, être enchaîné, assigné à résidence, eh bien c'est pas facile, on l'a aussi connu, on a été assigné aussi à résidence, ou bien d'un autre côté, la défense et l'annonce, la confirmation de l'Évangile, un terrain aussi dangereux où on se heurte à des résistances, et nous savons aussi en lisant le Nouveau Testament, le livre des Actes particulièrement, que Paul a été exposé à beaucoup de dangers à cause du ministère que Dieu lui a donné. Lorsque Paul a annoncé l'Évangile, ce n'était rarement facile. Il a eu beaucoup d'opposition, il a été exposé à la mort, aux bandits, aux naufrages, à beaucoup de choses qui ont mis sa vie en danger. Si bien que lorsque nous voyons ce quotidien de Paul, on se dit « mais quelle vie difficile !» Toujours sur les routes, jamais de sécurité, loin de ses amis, pas de téléphone pour être soutenu dans ses besoins, obligé d'être dépendant de la grâce de Dieu, en fait, de sa protection. Et pourtant, la joie de Paul est complète. Il se réjouit, que ce soit lorsqu'il doit annoncer l'Évangile, lorsqu'il doit défendre la foi, ou bien même lorsqu'il est en prison, Paul est toujours joyeux, toujours content. Il sait ce que c'est que de se contenter de ce qu'il a. Comme il le dira aussi dans un autre passage, il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Il a appris à vivre avec beaucoup de choses à sa disposition, et il a aussi appris à vivre dans le manque de tout. Et cela n'a pas entamé sa joie. Les Philippiens, comme je l'ai dit, participent aussi à cette même grâce que Paul a reçue. Ils ont reçu aussi cette mission de la part du Maître, d'annoncer l'Évangile et eux aussi de le confirmer par leur exemple de vie, de par ce qu'ils peuvent vivre ensemble, le confirmer dans leur contexte, là où ils sont. Paul les aime, le texte nous dit « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». On voit cette affection profonde, et si on prend une traduction un peu plus littérale, le texte nous dit que Paul affectionne les Philippiens avec les tripes de Jésus-Christ. Donc c'est vrai que nous, c'est un langage qui est un peu plus éloigné de nous, mais dans la culture hébraïque, le siège des sentiments est beaucoup plus le ventre et les intestins que pour nous, on dirait aujourd'hui le cœur. C'est dire à quel point Paul aime cette Église. Il l'aime comme les seigneurs a aimé les siens. C'est-à-dire un amour qui se sacrifie, un amour qui donne sans compter, qui est prêt à souffrir pour que l'autre puisse être enrichi. Cette joie, c'est celle aussi de Paul, de réaliser à quel point il a de la chance d'avoir pu être en bénédiction pour cette Église, d'avoir pu avoir ce ministère auprès d'eux, un ministère qui a duré, et qu'aujourd'hui les Philippiens aussi prennent à cœur pour eux-mêmes, dans leur ville, pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Enfin, nous finissons notre texte, je reprends notre lecture à partir du verset 9. « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Si Paul s'est réjoui par rapport à tout ce qu'il a vécu dans le passé avec cette église de Philippe, s'il se réjouit aussi de tout ce qu'il vit dans le présent avec eux, malgré la distance, malgré la séparation, Paul se réjouit également pour l'avenir de ce qui attend cette Église, parce que Paul sait que Dieu va prendre soin et conduire cette Église de Philippe. Et Paul donc a à cœur de prier pour eux, pour qu'elle puisse grandir en connaissance et en intelligence. Grandir dans la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, avec l'objectif, au verset 10, « pour le discernement des choses les meilleures ». Paul donc a à cœur que l'Église grandisse dans sa connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, mais il n'a pas à cœur que cette connaissance s'arrête là. L'objectif de grandir en Jésus-Christ, de mieux le connaître, c'est de mieux le servir. Et Paul le dit bien ici en disant, en parlant du discernement pour les choses les meilleures. Parce que il y a des besoins tellement grands, aujourd'hui encore pour nous. Il suffit de regarder à droite ou à gauche et on peut voir tout un tas de bonnes choses que nous pourrions faire. Comment choisir? Comment décider? Eh bien, nous allons nous orienter vers cela ou vers ceci, en écartant le reste. Comment faire le bon choix? C'est là la raison de la prière de Paul pour Philippe. Et aussi une raison pour nous de prier pour notre Église, que nous grandissions dans la connaissance de Jésus-Christ, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que nous voulons faire en tant qu'Église pour pouvoir être en bénédiction dans cette ville de Lons-le-Saunier, auprès de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, auprès de tous ceux qui peuvent être en lien avec nous, des amis, des collègues? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'Église pour faire connaître le nom de Jésus-Christ? Afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ. Paul parle de l'avenir, lorsque le Seigneur reviendra et qu'il mettra en lumière tout ce qui a été fait par les croyants et où il récompensera les uns et les autres pour les efforts qu'ils ont pu faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Paul a donc en vue aussi cette rétribution, cette récompense que le Seigneur donnera à ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'aiment, ceux qui lui appartiennent, et qui est distinct du salut, qui n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé. Pourtant, Paul sait que le Seigneur a à cœur d'utiliser son Église. Nous ne sommes pas appelés juste à confier, donner notre confiance à Dieu, accepter le salut de Jésus-Christ, et puis nous arrêter là. Dieu a d'autres projets pour nous. Et Paul le sait bien. aussi pour cette église de Philippe. Dieu a à cœur de nous utiliser pour l'avancement de son royaume ici-bas sur la terre. Et cela est un cadeau. Paul le dit aussi un petit peu plus haut, la grâce qu'ils ont en commun. Dieu fait la grâce à Paul, à cette église de Philippe et à notre église de Lons-le-Saunier de participer à l'annonce de l'évangile. Et cela est très surprenant pour nous, parce que nous sommes si imparfaits, si nous sommes un tant soit peu honnêtes et que nous nous regardons nous-mêmes, eh bien, moi j'ai envie de dire, mais qui suis-je ? Qui suis-je pour participer à un projet aussi ambitieux, un projet aussi grand, où Dieu peut appeler des âmes de la perdition à la vie éternelle ? Je suis qui, moi, pour participer à cet effort ? Je vais tout gâcher. Je vais tout gâcher. Et pourtant, le Seigneur veut nous utiliser. Il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos qualités. Il connaît aussi nos défauts. Il nous connaît parce qu'il nous a créés. Il sait que nous avons du bon et du mauvais en nous. Et malgré tout cela, non seulement le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, pour que nous puissions être sauvés, mais en plus, par-dessus le marché, il nous utilise pour accomplir le plus grand miracle qui puisse être sur cette terre, une conversion. Soyons-en sûrs, quand une âme donne sa vie à Jésus-Christ, c'est un miracle. C'est un miracle qui est impossible d'accomplir par des mains humaines. Et nous pourrions utiliser cette vérité pour dire « Mais moi, je ne peux pas. » Donc, cela justifie le fait que je ne fasse rien. Je schématise assez, je tire le trait assez gros, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous pouvons trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas participer au royaume de Dieu. Et pourtant, le Seigneur a choisi de nous utiliser. Et il nous utilisera, que nous le voulions ou non. Dieu veut nous placer dans des situations, qu'elles soient agréables ou moins agréables, pour que nous participions de toute façon au royaume de Dieu. Ça, c'est une réalité. Notre part, ce qui nous reste, c'est est-ce que nous voulons le faire de bon cœur ou contre notre gré ? Est-ce que nous voulons résister à l'action de notre Dieu ? Ce qui, se dit en passant, ne marchera pas. De toute façon, Dieu accomplira ce qu'il a décidé et il nous utilisera, qu'on le veuille ou non. Je pense que vous l'avez compris, notre objectif pour nous, c'est de pouvoir être des outils que Dieu peut utiliser. Des personnes qui n'ont pas le cou raide, pour reprendre aussi un autre passage de l'Écriture, où le peuple hébreu, l'Éternel le déclare, toujours eu le cou raide, n'a pas accepté de se laisser diriger par Dieu. Et c'est aussi un piège que nous pouvons connaître, un piège dans lequel nous pouvons tomber. Il y a tellement autour de nous de sollicitations, comme je l'ai dit aussi, tellement de choses à faire, de choses à penser, de choses à organiser, qu'on peut perdre de vue les bonnes priorités. Quel est l'objectif de notre vie ? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Elle est pourtant importante. Pourquoi est-ce que moi je suis là ? Pourquoi est-ce que si Dieu m'a créé, pourquoi il m'a placé là où je suis ? Pourquoi est-ce que je vis les situations auxquelles je suis confronté, qu'elles soient douces ou difficiles ? Et je pense qu'il est important pour nous, dans notre discernement des choses les meilleures, lorsque nous devons choisir qu'est-ce que nous allons faire de notre temps, parce que nous n'avons que 24 heures, et pas une de plus, dans une journée, je pense qu'il est important de réaliser, Dieu nous a appelés en premier lieu pour le servir. Dieu nous a appelés en premier lieu pour participer à son projet de créer l'Église. Ce grand projet de l'Église, Dieu nous incorpore dedans pour que nous y participions, et que nous soyons actifs. C'est un peu aussi le sujet de sa réjouissance, j'en reviens à notre texte, par rapport à cette église de Philippe, parce que Paul sait que sa prière va être exaucée par le Seigneur. Il a à cœur de prier que l'église grandisse en connaissance, afin qu'elle discerne ce qui est bon à faire, pour qu'il puisse être un jour, dans l'éternité, récompensés par le Seigneur pour tout le travail qu'ils auront fait ici-bas. Le texte nous dit, verset 11, « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. » Ce qui nous montre là toutes les bonnes choses que nous pouvons faire en tant que croyants, qui sont dirigées par Dieu et pour lesquelles Dieu un jour nous récompensera. Un autre passage m'a fait penser à ce que Paul déclare ici, un passage que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, les versets 12 et 13, « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Vous voyez que les passages sont très proches. Paul a ceci à cœur, que les croyants prennent part à ce que Dieu fait dans le monde, plutôt que de simplement considérer qu'une fois qu'on est converti, eh bien on a fait ce que Dieu nous demandait et il n'y a rien d'autre derrière. Dieu nous appelle à bien plus que cela. Et Dieu nous utilisera de toute façon pour bien plus que cela. Mais vous savez, il est possible de résister à Dieu en tant que croyant. Nous pouvons résister à Dieu. Et c'est dur, cela est difficile parce que ce sera accompagné de souffrances, de douleurs. Mais malgré tout, effectivement, on peut dans sa vie dire non à Dieu. On peut lui dire, eh bien, je te donne cette case de ma vie. Je te donne mon dimanche. Je te donne peut-être une réunion de prière dans la semaine. Mais le reste, ça m'appartient. On peut faire cela. Mais soyons sûrs, malgré tout, que Dieu ne va pas nous laisser là. Dieu usera de tout son pouvoir, toute son autorité, toute sa puissance, pour que nous n'en restions pas là. Et plus nous résistons à Dieu, plus nous nous épuisons. Parce que nos forces à nous sont limitées et celles de Dieu ne le sont pas. Dieu a à cœur que nous puissions connaître cette joie qui était celle de Paul. Une joie, vous l'aurez remarqué, qui est au milieu des tribulations, au milieu de la souffrance. Si bien que si nous nous disons, eh bien, pour vivre dans la joie, je vais éviter la souffrance, ce qui est un schéma humain naturel de pensée, eh bien, nous ne trouvons jamais la joie. Parce que la vraie joie, la joie que Dieu donne, la joie que Dieu a donnée à Paul, qu'il a donnée à cette église de Philippe, et qu'il veut nous donner aussi à nous, elle passe par la souffrance. Elle passe par cette souffrance de participer à l'évangile de Christ. L'évangile de Christ qui nous pousse à vivre une vie conforme à celle que Jésus a vécue. La vie de Jésus qui n'était pas facile. Une vie où il a connu l'opposition, où il était habitué à la souffrance, comme nous dit aussi Ésaïe. Et pourtant une vie aussi remplie de joie. Voilà à quel genre de vie le Seigneur nous appelle. Comme je l'ai dit aussi, le monde nous propose toutes sortes de joies, mais le problème avec la joie que propose le monde, c'est que ce n'est pas de la joie, c'est de la distraction, ce qui est très différent. Ce que le monde nous propose, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure jamais. Et il faut toujours investir plus, donner plus de choses pour obtenir de moins en moins. Voilà de quelle façon le monde donne. Nous sommes sollicités, comme je l'ai dit, pour beaucoup de choses. Le choix est tellement grand entre tout ce que nous pouvons faire qu'on peut être perdu, on peut se noyer. Mais pourtant, le Seigneur nous appelle à participer à son œuvre. Et il nous donnera sa joie. Une joie, comme celle de Paul, qui ne dépend pas de ce qu'il vit. Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est à l'arrêt. Il ne peut plus faire la mission que Dieu lui a confiée. Il ne peut plus annoncer l'évangile. Il est bloqué à un endroit. Il vit l'échec, il sait ce que c'est, mais il sait se réjouir dans l'échec aussi. Prenons donc aussi exemple sur lui. Apprenons à nous réjouir aussi de l'échec. Échouer n'est jamais un problème. Perdre confiance, perdre la persévérance est un problème beaucoup plus important. Parce que Dieu nous appelle à cette persévérance. Persévérance qui n'est pas évidente. Mais c'est dans la persévérance, pour reprendre Romains 5, tu l'as sous les yeux ou pas ?
Oui.
Oui, c'est ça. La détresse qui produit la persévérance et la persévérance qui produit la victoire dans l'épreuve. Vous remarquerez que si nous, on avait pu écrire ce verset à la place du Seigneur, on aurait dit « Sachant que la détresse produit la victoire dans l'épreuve ». On aurait probablement sauté la case de la persévérance. Et pourtant, la persévérance vient obligatoirement La victoire, pardon, vient obligatoirement avec la persévérance. On ne peut pas y couper, et même si nous, aujourd'hui, on voudrait que tout aille mieux tout de suite, le Seigneur, lui, a une autre notion du temps que nous. Et apprenons à prendre le temps de vivre ce temps de persévérance avant de connaître la victoire dans l'épreuve. Gardons aussi en tête que le Seigneur veut nous donner cette victoire. Il ne veut pas nous en priver. Mais il veut que nous apprenions à dépendre de lui et il veut nous apprendre à persévérer dans la durée. J'ai terminé par la prière. Seigneur Jésus, c'est vrai, lorsque nous voyons